Chers auditeurs, merci de l'intérêt que vous portez à ces études. Nous sommes à l'étude numéro 8 concernant la grande série Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Le titre pour aujourd'hui sera Dieu seul et sage. Lorsque la Bible dit de Dieu qu'il est un Dieu sage, qu'entend-elle par là? Eh bien, dans l'Écriture sainte, la sagesse apparaît comme une qualité tant morale qu'intellectuelle, une qualité qui est plus que de l'intelligence ou de la connaissance pure, plus aussi que de la sagacité ou de la finesse. Pour que l'homme soit véritablement sage, et cela au sens biblique du terme, car c'est autre chose, il faut que son intelligence et sa sagacité soient mises au service du bien. La sagesse est la faculté de discerner et le désir de donner, c'est le meilleur et le plus noble des objectifs ainsi que les moyens les plus sûrs pour l'atteindre. En fait, la sagesse est l'aspect pratique de la bonté morale. En tant que telle, elle n'existe dans toute sa plénitude qu'en Dieu seul. Lui seul, en effet, est par nature parfaitement et invariablement sage. Quoi qu'il fasse, Dieu se montre toujours sage. Il est sage par essence, comme avait coutume de le dire les théologiens d'autrefois, tout comme il est puissant, vrai et bon par essence, c'est-à-dire que la sagesse, la puissance, la vérité et la bonté sont autant d'éléments inhérents à son caractère. Donc, la sagesse des hommes, elle peut se trouver prise en défaut en raison de circonstances qu'ils ne peuvent contrôler. Achitophel, qui était l'ex-conseiller de David, passé à l'ennemi, conseilla sagement Absalom en le pressant d'en finir rapidement avec David sans lui laisser le temps de se remettre du premier choc que lui avait causé sa révolte. Mais Absalom décida d'adopter une autre ligne de conduite. Achitophel, blessé dans son orgueil, bouillant de colère et prévoyant sans doute l'échec fatal de la révolte, ne put se pardonner alors de s'y être rallié si stupidement, on peut bien le dire, et pas seulement stupidement, vous savez, dans la vie il n'y a pas que ça, mais il était devenu désespéré carrément, le pauvre. Désespéré, voyez-vous cela? Et il retourna donc chez lui. Pourquoi faire? Eh bien, figurez-vous, il est retourné chez lui, pour se suicider. Et là, vous pouvez noter 2 Samuel, chapitre 17. Mais, chers auditeurs, la sagesse de Dieu, elle ne peut être contrecarrée comme l'a été le bon conseil d'Achitophel, selon 2 Samuel, chapitre 17, verset 14. Car Dieu n'est pas seulement sage, il est aussi tout-puissant. La puissance, tout autant que la sagesse, fait partie de sa nature. Donc une puissance que la Bible décrit parfaitement lorsqu'elle dit d'elle qu'elle est orientée par son omniscience et régi par sa sagesse infinie. À lui la sagesse et la toute-puissance. Job, chapitre 9, verset 4. En Dieu résident la sagesse et la puissance. Job 12, verset 13. Il est puissant par la force de son intelligence. Job, chapitre 36, verset 5. Sa vigueur est si grande et telle est sa force. Voyez-vous, on ne peut sonder son intelligence. Selon Ésaïe, chapitre 40, verset 26, et prenez la traduction de Jérusalem. Là, ce sera le verset 28. Donc, on voit que ça peut des fois changer un numéro de verset selon les versions. Si on prend la version de l'abbé Crampon, ou les moines de Maritzou, ou encore des versions allemandes que je prends souvent, puisque je suis de langue allemande, évidemment. Alors, à lui, à Dieu, appartient la sagesse et la force. Daniel chapitre 2, verset 20. On retrouve la même association de termes dans le Nouveau Testament. À celui qui peut, qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile. Dieu seul est sage. Romains chapitre 16, versets 25 et 27. La sagesse sans la puissance, voyez-vous, serait pathétique. Ce serait un roseau brisé. La puissance sans la sagesse serait tout simplement effrayante. Mais en Dieu, eh bien en Dieu, une sagesse sans limite, elle va s'unir à une puissance infinie. Et il est donc parfaitement digne de notre entière confiance. Alléluia. Donc la sagesse du Dieu Tout-Puissant est toujours agissante, elle ne fait jamais défaut. Toute l'œuvre divine, que ce soit dans le domaine de la création, de la providence ou de la grâce, la révèle, et si nous ne la voyons pas, c'est que notre vision des choses est tout simplement faussée. Mais nous ne pouvons apprécier la sagesse de Dieu sans connaître d'abord le but de son œuvre. Et c'est ici que bien des gens se trompent, oui, en ne comprenant pas ou en comprenant mal ce que la Bible veut dire lorsqu'elle affirme que Dieu est amour. Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, versets 8 à 10. Alors ils s'imaginent que ce que Dieu désire, c'est accorder à chacun une vie facile et sans soucis, sans tenir compte des dispositions morales ou spirituelles de chaque individu, ce qui les amène à voir dans tout ce qui est cause de douleur et de contrariété, maladie, accident, injustice, chômage, souffrance d'un être cher, un signe de faillite de la part de Dieu, de la sagesse ou du pouvoir divin, ou des deux à la fois, ou même peut-être un argument en faveur de la non-existence de Dieu. Mais voyez-vous, c'est une profonde erreur que de prêter à Dieu une telle intention. Dans sa sagesse, Dieu ne s'engage pas et il ne s'est jamais engagé à assurer le bonheur total à un monde déchu ou la quiétude à des impies. Non, 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 ce serait trop facile. Même aux chrétiens, il n'a pas promis une vie de tout repos. Au contraire, et j'en sais quelque chose, Dieu il a en effet bien d'autres projets pour cette vie présente que celui de la rendre simplement agréable à tous. Mais alors, que recherche-t-il? Quel est son dessein? Quel but poursuit-il? Dieu a créé l'homme afin que celui-ci acceptât de l'aimer, de l'adorer et de le louer pour le merveilleux ordonnancement de ce monde très complexe et varié dans lequel il avait placé. Donc Dieu a aussi créé l'homme afin que celui-ci pût profiter de sa création et en usant conformément à sa volonté. Alors ce que Dieu voulait, ce qu'il voulait en créant l'homme, c'était qu'il puisse jouir pleinement à la fois de la création et du Créateur. Malgré la chute de l'homme, Dieu n'a pas abandonné ce premier dessein. Il veut encore amener une grande multitude d'hommes à l'aimer et à l'honorer. Son objectif final étant de faire d'eux des hommes qui lui soient parfaitement agréables. Oui, des hommes qui sachent le louer comme il mérite de l'être. Donc des hommes pour qui il sera absolument tout. Et cela afin que lui, comme eux, puissent trouver dans leur amour réciproque une source perpétuelle de joie, les hommes se réjouissant de l'amour de Dieu qui les sauve et qui leur est accordé pour l'éternité, et Dieu, lui, se réjouissant de l'amour que les hommes lui témoignent en retour. Amour que sa grâce a suscité en eux par l'Évangile. Oui, telle sera donc la gloire de Dieu et la gloire de l'homme également, dans tous les sens de ce terme, aux riches commutations, plutôt connotations, vous l'avez compris. Ou si je répète la phrase, donc telle sera la gloire de Dieu, et ainsi aussi la gloire de l'homme également. Et on peut dire dans tous les sens de ce terme aux riches connotations. Mais, voyez-vous, il faudra donc attendre. Attendre quoi? Attendre l'établissement du monde à venir pour en avoir la parfaite réalisation, lorsque tout ce qui appartient à l'ordre des choses créées aura enfin été transformé. Néanmoins, en attendant ce jour-là, Dieu travaille sans relâche à la réalisation de son dessein. Ses objectifs immédiats sont d'amener à lui des hommes et des femmes pour les faire vivre dans une communion de foi, une communion d'espérance et d'amour, de les délivrer du péché, premièrement, en manifestant dans leur vie la puissance de sa grâce et de défendre son peuple contre les forces du mal, et de répandre par tout le monde l'évangile du salut. Le Seigneur Jésus-Christ occupe donc une place centrale dans la réalisation de chaque phase de ce dessein. Dieu, en effet, Dieu a fait de lui à la fois le Sauveur qui a franchi du péché, en qui les hommes doivent se confier, et le Seigneur de l'Église, auquel les hommes devraient obéir. Donc, nous avons insisté sur la façon dont la sagesse divine a été manifestée dans l'incarnation et dans la mort du Christ. Nous voudrions donc maintenant ajouter que c'est à la lumière du dessein complexe que nous venons d'évoquer qu'il nous faut considérer l'action de la sagesse de Dieu dans la vie de chaque être en particulier. Les biographies que contiennent les Saintes Écritures nous seront ici d'un grand secours. Certains récits bibliques illustrent merveilleusement bien l'action de la sagesse de Dieu dans la vie des hommes. Prenons par exemple la vie d'Abraham. Oui, Abraham était un homme qui n'hésitait pas à recourir fréquemment à certaines ruses, des ruses les plus, on peut dire, méprisables. Voilà le mot qu'il faut dire, car les ruses sont souvent méprisables, pour enfin pouvoir se sortir de situations délicates, quitte, en agissant ainsi, à exposer dangereusement la vertu de sa merveilleuse femme. Genèse chapitre 12, verset 10 et le verset 20. Il semble donc que par nature, Abraham était un homme dont le courage moral n'était pas très, très remarquable. Il semble même, par ailleurs, qu'il se soit beaucoup trop préoccupé de sa propre sécurité. Genèse chapitre 12, verset 12, et le chapitre 20, verset 11. Il était également influençable devant l'insistance de sa femme. Alors là, il a accepté de lui donner un enfant, mais pas à elle, mais par l'intermédiaire de sa servante Agar. Et puis, lorsque Sarah s'étant aperçue que Agar s'enorgueillissait de cette grossesse, eh bien, elle se mit à se plaindre avec véhémence, on la comprend. Et il l'a laissé chasser Agar de sa maison. Genèse chapitre 16. Donc, il apparaît clairement que par nature, Abraham n'était pas un grand homme de principe et que son sens de la responsabilité laissait plutôt à désirer au début de sa vie. Pourtant, dans sa sagesse, Dieu, El Shaddai, décida de s'occuper de ce personnage extraordinaire qui était peu porté sur l'héroïsme et aussi peu à la conscience ferme. Il avait une conscience plutôt élastique. Ça nous arrive aussi. Et il l'a fait avec un tel succès que Abraham, ne se contentant pas de jouer fidèlement sur la scène de l'histoire de l'Église le rôle qui lui avait été attribué, c'est-à-dire celui de pionnier en terre de Canaan, de premier bénéficiaire de l'alliance de Dieu, selon la Genèse chapitre 17, et de père d'Isaac, l'enfant du miracle. Mais enfin, il est devenu un homme totalement nouveau. Oui, ça peut aussi nous arriver, heureusement pour nous. Ce dont Abraham avait le plus besoin, c'était d'apprendre à vivre dans la présence de Dieu, d'apprendre à ne considérer sa vie que par rapport à Dieu, à ne voir que en lui et en lui seul son chef, son défenseur et son rémunérateur. Et ce fut, en effet, ce fut la grande leçon que Dieu, dans sa sagesse, s'attacha à lui apprendre. Oui, Abraham, ne crains point, car je suis ton bouclier, et je suis ta récompense, et elle sera grande. Genèse, chapitre 15, verset 1. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche donc devant ma face, et sois intègre, sois honnête et sincère. Genèse chapitre 17, verset 1. Sans cesse, mis en présence de Dieu, Abraham en arriva au point où il aurait pu dire avec le psalmiste : Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir que en toi. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Psaume 73, verset 25. L'histoire se poursuit et nous voyons dans la vie d'Abraham mûrir les fruits de la leçon qu'il a apprise. Il arrive encore parfois que son ancienne faiblesse de caractère réapparaisse, mais parallèlement se révélant une noblesse et une indépendance nouvelle, qui était la conséquence de l'habitude de plus en plus ancrée et qui est devenue la sienne de, enfin, marcher avec Dieu, de s'appuyer sur la volonté que Dieu lui révèle, de mettre en Dieu toute sa confiance, de s'attendre à lui, de s'incliner devant sa sagesse et de lui obéir, quand bien même ses commandements seraient étranges et insolites. Donc, d'homme du monde qu'il était, Abraham est devenu un homme de Dieu. Gloire à son Saint-Nom. Et c'est ainsi que désormais, tout au long de son histoire, lorsqu'il répond à l'appel de Dieu, lorsqu'il quitte sa maison pour aller dans le pays dont ses descendants, notons-le bien, pas lui, mais ses descendants, car Abraham, en effet, n'a jamais malheureusement rien possédé en Canaan qu'une tombe, sa tombe. Genèse chapitre 23. Et là, nous découvrons en lui une mansuétude totalement nouvelle. Lorsque il refusa, par exemple, de faire usage de son droit de priorité sur son neveu Lot, Notez la Genèse, chapitre 13, verset 8. Ainsi qu'un courage totalement nouveau, lorsque, avec moins de 300 hommes, il se met en route pour secourir Lot, contre lequel se sont ligués quatre rois. Genèse chapitre 14, verset 14. Mais nous lui trouvons aussi une dignité nouvelle lorsqu'il renonce à garder pour lui son butin retrouvé, de peur que l'on puisse attribuer sa richesse au roi de Sodome plutôt qu'au Dieu Tout-Puissant. Genèse chapitre 14, verset 22. Ainsi qu'une patience également nouvelle, lorsque il attend pendant un quart de siècle, il a tout de même 75 ans, et lorsque il reçoit la promesse, et 100 ans, il a 100 temps, lorsque la voie se réalise enfin par la naissance de l'héritier qui lui avait été promis. Genèse chapitre 12, verset 4 et chapitre 21, verset 5. Et puis, nous le voyons devenir un homme de prière, oui, un intercesseur pressant, accablé par un sentiment de responsabilité du destin des autres devant Dieu. Genèse chapitre 18, verset 23. Et nous le voyons finalement, tant est grande sa soumission à la volonté de Dieu, et totale sa confiance en sa sagesse, prête à obéir. Lorsque Dieu lui commande de tuer son propre fils, qui était l'héritier si longtemps attendu, Genèse chapitre 22, Dieu ne lui avait-il pas enseigné sa leçon avec beaucoup de sagesse? Et Abraham ne l'avait-il pas parfaitement apprise? Jacob, lui, le petit-fils d'Abraham, il a eu besoin d'une pédagogie toute différente. Oui, Jacob, voyez-vous, il était un fils à maman, comme il y a des fils à papa. Il était entêté et il était doté, il voudrait mieux dire, il était affligé de tous les instincts opportunistes et de cette absence fatale de cœur qui caractérise l'homme d'affaires débrouillard et très ambitieux. Et dans sa sagesse, Dieu avait décidé que c'était à Jacob, pourtant le plus jeune de ses deux fils d'Isaac, que reviendrait le droit d'aînesse et la bénédiction, et que c'était donc lui, qui deviendrait le bénéficiaire de la promesse de l'Alliance, selon la Genèse, chapitre 28, verset 13. On a évidemment le droit d'être étonné. Mais Dieu est Dieu. Le plan de Dieu prévoyait également que Jacob épouserait ses cousines, Léa et Rachel, et qu'il deviendrait le père des 12 patriarches qui, à leur tour, hériteraient de la promesse de Dieu. Genèse chapitre 48 et le chapitre 49. Donc, dans sa sagesse, Dieu avait également résolu de faire connaître à Jacob ce qu'était la religion véritable. Dans la vie de Jacob, tout dénotait l'impiété, en sorte que tout avait besoin d'être totalement changé. Il fallait que Jacob cessât de ne compter que sur sa propre intelligence, sa roublardise, ses ruses, pour ne plus dépendre que de Dieu. Il fallait également qu'il apprît à avoir en horreur cette attitude de duplicité qui lui était naturelle. Et c'est pourquoi Jacob allait devoir prendre conscience de sa profonde faiblesse et de son manque total d'intelligence. Il fallait qu'il perdît si complètement cette confiance qu'il avait en lui-même, que plus jamais il ne serait tenté d'exploiter son prochain comme il l'avait fait jusque-là. Il fallait que la belle assurance de Jacob disparut une fois pour toutes. Avec une patience, on peut dire une patiente sagesse, car voyez-vous, Dieu, il attend toujours le moment propice, le moment favorable. Alors Dieu créa en Jacob un état d'esprit tel qu'il put enfin imprimer à son âme, de façon décisive et indélébile, ce sentiment d'impuissance et d'incapacité qui lui était nécessaire. La façon dont Dieu s'y prit pour y parvenir est particulièrement instructive. Alors, pour commencer, pendant une vingtaine d'années, Dieu laissa Jacob combiner et échafauder de sombres stratagèmes, qui étaient destinés à tromper évidemment son prochain, et il laissa aussi face aux inévitables conséquences de son attitude, défiance mutuelle, amitié transformée en inimitié et en isolement. Les résultats que Jacob a obtenus grâce à son intelligence se muèrent pour lui en malédiction divine. Et lorsque Jacob eut subtilisé à Ésaü, rappelez-vous, son droit d'aînesse et la bénédiction à laquelle ce dernier avait donc droit, selon la Genèse, chapitre 25, verset 29, Ésaü se retourna contre lui, ce qui était bien naturel, et Jacob a dû quitter la maison en hâte. Alors il s'en alla chez son oncle Laban, qui s'avéra être un individu tout aussi rusé que lui. Laban profita de la situation dans laquelle se trouvait Jacob pour l'exploiter, et il le berna en lui faisant épouser non seulement celle de ses filles qui était fort jolie et que Jacob désirait depuis longtemps, mais également celle qui était laide, qui avait les yeux malades et que son père aurait eu beaucoup de mal à bien marier autrement. Genèse chapitre 29, verset 15 jusqu'au verset 30. Donc, Jacob a fait ainsi chez Laban l'expérience du trompeur trompé, et Dieu le permit afin que Jacob se rendît compte de ce que cela représentait que d'être victime d'une escroquerie, chose que Jacob avait besoin d'apprendre s'il lui fallait un jour renoncer à son ancienne manière de vivre. Mais Jacob n'était pas encore guéri. Aussi réagit-il immédiatement en rendant coup sur coup. Il trafiqua avec tant d'astuce les troupeaux de Laban qu'il s'enrichit considérablement au détriment de son employeur. Laban se mit alors en colère et Jacob sentit qu'il était plus prudent de mettre la poudre d'escampette pour Canaan avec sa famille avant que les représailles allaient commencer effectivement. Genèse chapitre 30 verset 25 jusqu'au verset 31. Et Dieu, qui avait supporté jusque-là la malhonnêteté de Jacob sans lui en faire de reproche, l'encouragea à partir. Genèse chapitre 31 verset 11 et le chapitre 32 verset 9. Car il savait ce qui allait se passer avant la fin du voyage. Dès que Jacob fut parti, Laban le poursuivit et lui fit très clairement comprendre qu'il ne voulait pas le revoir revenir un jour. Genèse chapitre 31. Donc, lorsque la caravane de Jacob atteignit la frontière du pays d'Ésaü, Jacob envoya à son frère un message courtois, pour l'informer de son arrivée. Mais les nouvelles qu'il reçut en retour, lui donnèrent à penser, d'une façon erronée, que Ésaü venait à sa rencontre avec une force d'armée pour se venger de ce que lui avait fait Jacob 20 ans auparavant, lorsqu'il l'avait frustré de sa bénédiction. Jacob sombra alors dans un profond désespoir. Alors, oui, l'heure de Dieu était venue. Et cette nuit-là, alors que Jacob se tenait seul près de la rivière Jabbok, Dieu le rencontra. Genèse chapitre 32, verset 24. Ce furent là des heures terribles d'affrontements désespérés, douloureux, affrontements spirituels, mais aussi affrontements physiques. Jacob s'accrocha à Dieu dans cette heure de crise et il voulait une bénédiction, il voulait un signe qui l'assurerait de la faveur et de la protection divine. Mais il ne put obtenir ce qu'il recherchait et sa situation lui apparut alors encore plus clairement. Il reconnut enfin l'incapacité totale où il était de s'en sortir. Et si Dieu n'intervenait pas, l'état désespéré dans lequel il se trouvait serait catastrophique. Avec une profonde amertume, il se rendit donc compte que ce qu'il avait fait avec tant de cynisme et sans le moindre scrupule se retournait maintenant contre lui. Jusque-là, il avait eu pleinement confiance en lui. Il s'était même cru de taille à affronter sans difficulté toutes les situations possibles. Mais à ce moment précis, il se sentait totalement incapable de contrôler la situation. Une chose lui paraissait désormais définitivement acquise. Plus jamais il n'oserait se fier à lui-même pour prendre soin de sa personne et forger son destin. Oui, plus jamais il n'oserait recommencer à vivre d'expédients, de ruses et de fourberies. Pour que Jacob en soit doublement convaincu, Dieu, au cours de leur affrontement, l'estropia, selon la Genèse chapitre 32, verset 25, et cela en lui déboîtant la hanche, afin que cette infirmité lui fût un perpétuel rappel physique de sa faiblesse spirituelle et de la nécessité où il était de s'appuyer sur Dieu uniquement, tout comme il serait pour le reste de sa vie dans la nécessité de s'appuyer sur un bâton pour marcher. Jacob se détesta pour la première fois de sa vie et il découvrit qu'il haïssait de tout son cœur ce qu'il avait cru être chez lui une sorte d'intelligence. Et à cause d'elle, il avait dressé son frère Ésaü contre lui, sans parler de Laban. Et voilà maintenant qu'à cause d'elle, son Dieu refusait, semble-t-il, de le bénir. Il a crié, « Laisse-moi aller !» disait celui contre qui il combattait. C'était comme si Dieu voulait l'abandonner. Mais Jacob le tenait fermement. Et il a dit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Genèse chapitre 32, verset 26. Alors enfin, Dieu prononça les paroles de bénédiction, car Jacob était désormais suffisamment faible et désespéré. Il était devenu humble et dépendant pour pouvoir être béni. Donc, Jacob a brisé. Il a été brisé. Pourquoi ? Parce que Dieu l'a brisé. Oui, c'était bien là ce que Dieu avait fait pour Jacob. Lorsque Dieu le laissa, il n'y avait plus en Jacob la moindre trace de son ancienne assurance. L'Écriture sainte parle de la victoire de Jacob dans ce combat. Genèse 32, verset 28. Et de fait, la véritable victoire de Jacob fut d'être resté fermement attaché à Dieu pendant que celui-ci lui faisait toucher du doigt sa faiblesse et lui insufflait un esprit de soumission et de défiance vis-à-vis de lui-même. Si grand était son désir de recevoir la bénédiction de Dieu qu'il s'accrocha à lui tout au long de sa douloureuse humiliation, et ceci jusqu'à ce qu'il fût suffisamment abaissé pour que Dieu pût le relever, et lui parlant de paix et en lui donnant l'assurance qu'il n'avait plus rien à craindre d'Ésaü. Bien sûr, Jacob n'était pas devenu un petit saint en une nuit, car le lendemain, il ne montra pas, on peut dire, une parfaite droiture vis-à-vis d'Ésaü, selon la Genèse, chapitre 33, verset 14 jusqu'au verset 17. Mais en fait, Dieu avait donc gagné son combat contre Jacob et il avait gagné pour de bon. Jacob ne retomba plus jamais dans ses anciens travers. Jacob, le boiteux, avait donc appris sa leçon. La sagesse de Dieu avait fait son œuvre. Un autre exemple, oui, du livre de la Genèse, lui aussi, mais différent encore, c'est celui de Joseph. Alors qu'il était tout jeune, les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave en Égypte. C'était terrible. Et ensuite accusé à tort par la perfide épouse de Potiphar, il a été jeté en prison. Pourtant, peu de temps après, il accéda à un rang très élevé. Pourquoi dans sa sagesse, Dieu en avait-il décidé ainsi? En ce qui concerne Joseph personnellement, le verset 19 du psaume 105 nous donne la réponse. La sainte parole de l'Éternel l'éprouva. Il fallait que Joseph fût mis à l'épreuve, épuré, mûri, et il fallait qu'il apprît au cours de son esclavage et de son emprisonnement à s'en remettre uniquement à Dieu, à préserver dans l'adversité sa joie et son amour et à attendre avec patience l'intervention du Seigneur. Dieu utilise souvent, et même très souvent, les épreuves les plus pénibles pour enseigner ce genre de leçon. En ce qui concerne la vie du peuple de Dieu, Joseph répond lui-même à notre question lorsqu'il révèle son identité à ses frères épouvantés. C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, contrairement à ce que vous avez pensé, mais c'est Dieu. Genèse chapitre 45, verset 7. La théologie de Joseph était aussi saine que sa charité était profonde. Une fois de plus, nous constatons que la sagesse de Dieu règle les événements de la vie humaine dans une double perspective. La sanctification personnelle de l'individu, c'est l'accomplissement du ministère et du service qui lui ont été confiés au sein du peuple de Dieu. Et nous pouvons voir dans la vie de Joseph, comme dans celle d'Abraham et de Jacob, ce double objectif merveilleusement atteint. Je répète, en ce qui concerne la vie du peuple de Dieu, Joseph répond lui-même à notre question lorsqu'il révèle son identité à ses frères épouvantés. C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Genèse 45, verset 7. La théologie de Joseph était aussi saine que sa charité était profonde. Une fois de plus, nous constatons que la sagesse de Dieu règle les événements de la vie humaine dans une double perspective. La sanctification personnelle de l'individu et l'accomplissement du ministère et du service que lui ont été confiés au sein du peuple de Dieu. Et nous pouvons voir dans la vie de Joseph, comme dans celle d'Abraham et de Jacob, ce double objectif merveilleusement atteint. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction, car la même sagesse qui traçait les sentiers que foulaient les hommes de Dieu au temps biblique règle aujourd'hui la vie des chrétiens que nous sommes. Et c'est pourquoi nous ne devrions pas être trop déconcertés devant les événements inattendus qui nous surviennent et qui nous bouleversent ou qui parfois nous découragent. Pourquoi se produisent-ils? Eh bien simplement parce que dans sa sagesse, Dieu veut nous amener là où nous ne sommes pas encore parvenus et qu'il agit en conséquence. Peut-être veut-il affermir notre patience, notre bonne humeur, notre compassion, notre humilité ou notre douceur en nous donnant l'occasion de faire usage de ces dons dans des circonstances particulièrement difficiles. Peut-être a-t-il quelque chose de nouveau à nous apprendre dans le domaine de l'abnégation et de l'humilité. Peut-être désire-t-il nous détacher de toute vanité, de tout irréalisme, de toute forme d'orgueil et de prétention encore insoupçonnée. Et peut-être désire-t-il seulement nous attirer plus près de lui, et cela dans une communion consciente avec lui. Et bien souvent, en effet, et c'est une chose que tous les saints savent, que la communion avec le Père et avec le Fils est d'autant plus profonde et d'autant plus douce et la joie chrétienne, d'autant plus grande que la croix est plus lourde. Oui, peut-être enfin, Dieu veut-il nous préparer à une forme de réserve à laquelle nous n'avons jamais pensé jusque-là. L'apôtre Paul, il a compris une des raisons de ses propres afflictions, comme il l'exprime dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. « Dieu, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et il fut ainsi élevé à la perfection, afin d'accomplir son ministère de souverain sacrificateur, ministère de compassion aux compréhensions et d'assistance envers ses disciples qui étaient durement éprouvés. Hébreux 5, verset 8. Ce qui veut dire que si d'un côté il est capable de nous encourager, de nous soutenir et de nous rendre plus que vainqueurs dans toutes nos difficultés et nos détresses, nous ne devons pas, de l'autre côté, nous montrer simplement surpris. Si il nous appelle à suivre ses traces et à nous laisser préparer par ses douloureuses expériences et qui ne sont pas méritées, en vue du service, oui, du service auquel nous serons appelés auprès des autres. Donc, il doit nous former. Il connaît le chemin, même si pour le moment, nous ne le connaissons pas. Il se peut que nous soyons franchement désorientés devant ce qui nous arrive, mais Dieu, il sait parfaitement ce qu'il fait et ce qu'il poursuit en prenant nos affaires en main. Il est toujours sage en toutes choses, même si nous ne le comprenons pas d'ici-bas. Non, nous ne le comprenons pas toujours. Et nous le comprendrons un jour. C'est du reste dans le ciel que Jacob a découvert la véritable raison de ses épreuves. Il ne l'a connue pas tant qu'il a été sur la terre. Et en attendant, nous ne devrions pas hésiter à nous confier en sa sagesse, même lorsqu'il nous laisse dans l'obscurité. Mais comment pourrons-nous affronter ces circonstances déroutantes et éprouvante s'il ne nous est pas permis de discerner aujourd'hui le but que Dieu poursuit au travers d'elle. Tout d'abord, en les acceptant, nous devons les accepter comme venant de Dieu et en nous demandant ce que l'évangile de Dieu attend de nous dans une telle situation. Ensuite, en recherchant tout spécialement la face de Dieu dans ces circonstances. Si nous adoptons ces deux attitudes, nous ne nous trouverons jamais dans nos difficultés, totalement ignorants des desseins de Dieu, et nous serons toujours, toujours, au moins capables d'en savoir autant que l'apôtre Paul en savait sur son écharde dans la chair qu'elle était. elle lui était venue, nous dit-il du reste, comme un ange de Satan, pour tenter de faire naître en lui des pensées hostiles à Dieu. Et l'apôtre Paul résista à cette tentation, et par trois fois, il chercha la face de Christ, lui demandant la guérison. Et la seule réponse qu'il reçut fut la suivante : « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » À la réflexion, il comprit une des raisons de cette épreuve. Elle le gardait dans l'humilité, afin qu'il ne fût pas gonflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Cette pensée, ajoutée à ce que le Christ lui avait dit, lui suffirent. Il ne chercha pas plus loin. Il s'en est rendu finalement compte à cette dernière attitude. Oui, il a dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, et je me glorifierai bien plus volontiers de ma faiblesse. Je viens de vous le répéter. Pourquoi ? Afin que la puissance de Christ puisse reposer sur lui comme sur vous. 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 9. Alors, chers auditeurs, cette attitude de l'apôtre Paul, elle doit constituer pour nous, un modèle. Que nos difficultés nous soient ou non envoyées pour nous préparer à un futur service dans l'œuvre de Dieu, elles auront toujours au moins l'utilité que a eu l'écharde de Paul. Elles nous auront été envoyées pour nous rendre et nous garder humbles et pour nous donner une nouvelle occasion de démontrer la toute-puissance du Christ dans nos vies vouées à la mort. Chers amis, avons-nous vraiment besoin d'en savoir davantage? Cela ne suffit-il pas à nous convaincre que même dans les épreuves, la sagesse de Dieu est manifestée? Lorsque l'apôtre Paul a compris que cette maladie lui avait été envoyée pour lui permettre de glorifier le Christ, il l'accepta comme une conséquence d'un sage décret et il s'en réjouit même. Donc, chers auditeurs, que Dieu nous donne la sagesse, la grâce, dans toutes nos difficultés, de pouvoir au moins essayer de faire de même. Chers amis, nous allons terminer la prière et je vous mettrai, Dieu voulant, un ou deux chants du passé. Lorsque j'avais fondé une mission sur cassette il y a plus de 50 ans, évidemment, ces cassettes sont usées, c'est vrai, mais l'essentiel, c'est de pouvoir comprendre encore les paroles. Prions. Ô Dieu notre Père, vous qui êtes la force de ceux qui mettent leur confiance en vous, exaucez nos prières par votre miséricorde. Et puisque à cause de la faiblesse de notre nature, nous ne saurions faire aucun bien sans vous, accordez-nous le secours de la grâce, afin que nous vous soyons agréables dans nos pensées et dans nos attentions, nos actions, par Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur. Amen. Amen. Et je vous mets, Dieu voulant, un ou deux chants, si ça fonctionne. Et à bientôt à nouveau pour la suite de ces études très importantes.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. je suis.